Bonjour à tous, vous êtes avec nous sur Doctoradio ce matin et vous êtes sur la radio 91 FM+.
Il faut avoir envie d'interroger le monde.
Il y a une chose, une seule à préconiser, qui est la recherche sur le terrain.
La curiosité, toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les choses.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vous souhaite la bienvenue chez Doctoradio, l'émission où des thésards de tous les horizons viennent jusqu'à vous pour vous raconter leurs recherches, leurs trouvailles, leurs découvertes qui bouleverseront peut-être un jour notre société. Alors, ce n'est pas comme chaque semaine, puisque aujourd'hui, donc, vous avez toujours votre animatrice Aliénor, mais vous remarquerez que Camille a un petit peu changé sa voix.
Je ne suis pas Camille.
Nous avons donc aujourd'hui comme... animateur Guilhem Bilodel, qui est passé il y a quelques semaines dans notre émission et qui finalement a tellement aimé qu'il s'est mis à squatter les studios.
Vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement.
Et il ne bouge plus, donc aujourd'hui c'est notre animateur remplaçant, il reviendra à de nombreuses reprises, évidemment. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Et pour cette deuxième émission, nous allons traiter de l'univers du théâtre et des analyses dramaturgiques. Nous espérons que nos trois doctorantes vont nous faire grimper au rideau.
Oui, nos trois doctorantes, justement, qui ont accepté, en tout cas, de venir aujourd'hui au studio. On commence par présenter Thaïs Cross. Thaïs, bonjour Thaïs.
Bonjour.
Tu travailles sur la représentation du travail au théâtre.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Nous avons ensuite Alice Marion Ferrand.
Bonjour.
Bonjour Alice. Si je ne me souviens bien, tu travailles sur la représentation de la religion au théâtre.
Exactement.
Très bien. Et nous avons enfin, mais not least, Lola Bruyère. Bonjour Lola.
Bonjour.
Lola, tu travailles sur le théâtre lesbien.
C'est ça.
Très bien, bienvenue. Alors, on est encore un peu en famille aujourd'hui, puisque Thaïs et Lola, vous faites partie du RIRA 21.
Oui.
C'est ça.
Ouais, moi, pas tout à fait, vu que je suis encore masterante.
Oui, pas encore. Mais
pour le moment.
Tu es attendu au tournant,
en tout cas. C'est ça, tout pareil.
Voilà. Ceci dit, oui, le RIRA 21, pardon, qui est un acronyme qui signifie « représenter, inventer la réalité du romantisme au XXIe siècle ». Aujourd'hui, on accueille néanmoins une petite voisine d'en face, Alice, puisque tu fais partie de l'IRCL. Qu'est-ce que c'est l'IRCL ?
C'est l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières.
L'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières. Donc l'IRACL, non, l'IRCL, pas l'IRCL.
L'IRCL, ouais.
D'accord.
On a enlevé le A qui était assez disgracieux dans cet acronyme.
C'est vrai, mais ça aurait pu donner l'IRACL finalement, mais l'oracle de l'IRCL,
mais
c'est toi.
Nous sommes les oracles du site Saint-Charles sur lequel nous travaillons et vous aussi.
Venez nous éclairer.
Mais on est tous voisins finalement, c'est fabuleux. Oui. Et bien alors, on va commencer avec Thaïs. Thaïs, merci encore d'être venue aujourd'hui.
Merci à vous de m'inviter.
Est-ce que tu peux nous raconter de quoi parle ta thèse ?
Oui, je vais essayer de vous présenter un peu mon sujet en 3 minutes sans trop dépasser le temps.
Tu t'autodétruis sinon de toute façon.
Mais donc ma thèse s'intitule « Dramaturgie contemporaine du travail des écritures de l'aliénation ». Et donc mon sujet de recherche, comme son nom l'indique, ce sont donc les écritures dramatiques, donc en gros les pièces de théâtre, publiées, écrites au XXIe siècle, qui s'intéressent de près ou de loin à la question du travail et de l'aliénation. Donc par travail, je ne l'entends pas au sens entre guillemets philosophique du terme, c'est-à-dire le travail comme activité sociale dans l'absolu et un peu en dehors de ses conditions matérielles de son exercice. J'entends par travail le travail dans le cadre du système capitaliste, donc le travail salarié et qui a pour socle l'exploitation et qui est donc en lien avec la notion d'aliénation selon la définition de Marx. Donc depuis ces deux dernières décennies, on observe un petit peu l'émergence de spectacles et de textes d'artistes, généralement, qui s'emparent du travail comme sujet ou comme thématique. Ce qui n'était pas forcément le cas au XXe siècle, mis à part chez quelques auteurs comme Valère Novarina ou Michel Vinavert, on ne trouve pas un engouement aussi important qu'on peut le voir depuis 20 ans pour ces thématiques-là de figurer et représenter le travail. Donc c'est ce phénomène-là, cette résurgence, cette émergence un petit peu, c'est un phénomène qui a déjà un peu attiré l'attention de quelques chercheurs et chercheuses. Stéphanie Loncle, par exemple, elle parle de dramaturgie de la crise. Martial Poirson parle de dramaturgie économique. Moi, j'utilise le terme de dramaturgie du travail parce que c'est vraiment à partir de ce prisme du travail et de la question de l'aliénation que je travaille, du coup. L'objectif donc, de ma recherche, c'est donc d'examiner et d'interroger cette figuration et cette représentation-là, comme j'ai dit, voilà, du travail, mais spécifiquement à travers le prisme de l'aliénation. Et donc, mon hypothèse principale, c'est l'idée que ces représentations-là, en plus d'induire des questions d'ordre politique, économique et social, elles participent également à façonner une écriture dramatique singulière. Donc l'enjeu, c'est donc pas tant de savoir comment les écritures dramatiques contemporaines regardent le travail, mais aussi et surtout d'examiner et de comprendre ce que cette observation produit en retour sur elle. Si vous voulez, c'est un peu de voir comment la représentation du travail travaille les dramaturgies contemporaines.
Excellent.
Et qu'est-ce que le travail produit ou provoque en termes d'écriture, de corps, de voix, etc., etc. Donc évidemment, je n'ai pas encore la réponse à cette question puisque je ne suis qu'en première année de ma thèse. Mais parmi les débuts de pistes de réflexion qui émergent de mes recherches, j'ai remarqué que selon si le travail est une thématique ou plutôt un paysage, une toile de fond, il ne va pas produire les mêmes écritures, les mêmes effets dans les écritures, notamment dans le rapport au réel, surtout à ce niveau-là. Voilà.
Merci beaucoup.
Je suis dans les temps.
Merci beaucoup, Thaïs. C'était absolument passionnant et ça soulève quelques questions que nous avons, que vous avez peut-être aussi. Alors, moi, j'ai déjà une question par rapport justement à ce terme de travail qui est quand même assez central dans ton travail, si j'ai bien compris.
donc... Ça devient lourd, hein.
Oui, voilà, mais...
C'est vrai, c'est difficile de trouver des synonymes.
Oui, en même temps, c'est le matin, on parle beaucoup de travail. Et donc, la question que je me pose, en fait, par rapport au théâtre, c'est que le fait de jouer, de diriger ou d'éclairer, de mettre en son, c'est aussi du travail, quelque part. Et donc, je me demandais si tu prenais en compte dans ton travail... dans tes recherches, cette idée du théâtre comme un lieu de travail aussi, et donc s'il y avait un aspect peut-être réflexif dans les mises en scène et les écritures que sur lesquelles tu étudies.
Oui, tout à fait. Effectivement, ce n'est pas quelque chose que je mets de côté. Mais disons qu'en fait, la plupart des pièces et des spectacles qui... Alors moi, je travaille sur les textes hein, principalement, mais après les spectacles, ça rentre aussi dans la réflexion. Mais la plupart des œuvres, on va dire, qui se penchent sur le travail, ça va être majoritairement le monde du travail, on va dire... externe à l'art, tout ce qui est... Vraiment, c'est assez large, hein, le sujet... Enfin, je veux dire, le domaine du travail, ça peut être les chantiers, le bureau, l'usine. Je prends ce truc-là au sens large. Il y a aussi, effectivement, des pièces qui ont un point de vue un peu méta-théâtral, ou je ne sais pas trop comment dire, comme tu dis, de se pencher sur la question des artistes au travail. Il y en a moins ce que...
Métathéâtral, c'est-à-dire le théâtre au-dessus du théâtre, le théâtre dans le théâtre.
Oui, qui va interroger le théâtre, en fait, qui va interroger le théâtre ou l'art. Mais il y en a, je ne sais pas ce qui est majoritaire, en tout cas dans ce que j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé énormément, même s'il y en a. Et je pense que ce n'est pas pour rien, justement, Stéphanie Loncle, elle parle de, quand elle parle des dramaturgies de la crise, si je me souviens bien, elle dit aussi cette hypothèse-là que j'avais trouvée intéressante quand j'avais lu son article quand j'étais en master. Elle dit aussi qu'elle interroge plutôt... sans vouloir paraphraser mal, mais il me semble qu'elle interroge cette question-là pour les artistes de représenter le monde du travail comme un peu une fuite de ne pas se poser la question de son propre travail en tant qu'artiste. Je ne sais pas trop si c'est clair. Je paraphrase un petit peu, hein, ça fait un moment que j'ai lu l'article. Mais effectivement, le fait de représenter le travail sur scène, ça pose la question ça pose cette question-là du rapport à l'artiste au travail. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que moi, la pensée marxiste m'intéresse évidemment d'un point de vue politique et économique, mais aussi parce qu'il y a des apports de Marx par rapport au travail artistique qui sont assez intéressants.
Mais alors, justement, ça rebondit là-dessus. Pour nos chers auditeurs, donc tu parlais d'aliénation. Effectivement, c'est un concept que nous, en sciences humaines, on connaît assez bien. On est tous passés par là.
Surtout toi, Aliénor.
Oh, facile celle-là, facile. Est-ce que tu peux un petit peu nous revenir sur la question de cette aliénation, en fait ? Ça veut dire quoi, aliéner ? Ça veut dire quoi, une aliénation ? Et surtout dans le domaine du travail ?
Alors, comme je l'ai dit, moi, aliénation, je l'entends au sens comme le formule Marx dans ses écrits. Il me semble que c'est dans le manuscrit de 1844 qui développe cette chose-là. Non, mais je donne ma source, je cite mes sources. Mais je ne sais pas trop si je vous lis la citation exacte, peut-être ça va être un peu lourd et tout ça. Je vais essayer de le résumer. Mais disons que c'est l'idée que... Je vais essayer de paraphraser Marx.
Marx vous parle.
Voilà. On va essayer que ce soit correct. Mais disons que comment il le formule, c'est que le travail en soi, comme activité en dehors de tout cadre, justement, c'est une activité sociale qui est non seulement bénéfique, entre guillemets, pour l'individu, mais qui est aussi nécessaire à la société, mais qui est aussi quelque chose de nécessaire et de bénéfique, parce que c'est à travers la tâche, l'activité, que l'individu va se réaliser lui-même. Il dit quelque chose un peu comme ça, il me semble. Et donc, comme nous ne sommes pas dans une société dénuée de tout, nous ne sommes pas dans un cadre... on est dans un système capitaliste qui fait que le travail n'est pas délié, n'est pas absolu, n'est pas dans l'absolu, et qu'il y a donc des conditions d'existence qui font... que je vais reformuler.
Non, mais c'est très clair, je crois.
Je vais essayer de faire vite, mais en gros, c'est l'idée que le travail tel qu'il est aujourd'hui, s'il engendre de la souffrance, c'est parce qu'il est à l'intersection de dynamiques contradictoires. Mmh. Parce qu'il est d'un côté le lieu de la réalisation de soi, l'activité, etc., ce que j'ai dit auparavant, et que ça, c'est en contradiction avec les intérêts, les finalités du capital et ses exigences de mise en valeur productive et en gros, la recherche de profit, etc.
D'accord.
Et en gros, c'est l'intersection de ces dynamiques contradictoires qui produit la souffrance et l'aliénation. Désolée, j'ai fait un peu long.
Non, mais en tout cas, sur ce point, on est d'accord. Alors, Marx, et ça repart maintenant sur l'opium du peuple, cette fois-ci, avec Alice. Donc Alice, à nouveau, bienvenue. Tu travailles donc avec Florence Marx, si je...
Exactement.
Si
oui,
sources
Marx.
Sont
Marx. Incroyable. Tout est lié, en fait.
Marx, Florence Marx. Sur donc la représentation du fait religieux dans le théâtre de la Restauration.
Oui, c'est ça.
Voilà, Alice, c'est à toi.
Merci. Donc mon travail de thèse porte sur la comédie anglaise du second XVIIe siècle, comme Guilhem l'a dit, plus communément appelée comédie de la Restauration. Et c'est un corpus dramatique qui vient plus ou moins 60 ans après Shakespeare et qui jusqu'ici a été quelque peu éclipsé par le théâtre élisabéthain, particulièrement en France, où nous sommes actuellement trois à être spécialistes de ce corpus.
Wow. Quel privilège de t'avoir.
Merci. Donc évidemment, loin de moi l'idée de prêcher pour ma paroisse, mais c'est vraiment très dommage qu'on ne connaisse pas plus ce théâtre en France, parce que ce sont des pièces qui sont extrêmement drôles, extrêmement riches, et qui se saisissent de questions politiques, religieuses et sociales extrêmement problématiques à l'époque et encore aujourd'hui. Et si on appelle le théâtre de la Restauration par ce nom, c'est parce qu'en 1660 a lieu une triple restauration, donc un peu de contexte. Restauration de la monarchie, puisque Charles Ier avait été décapité en 1649, et la monarchie remplacée par un Commonwealth
dès le matin.
Ouais, il n'a pas passé une bonne journée, vraiment. Une restauration de l'Église d'Angleterre, puisque ceux qui avaient coupé la tête de Charles puis gouverné pendant une dizaine d'années étaient des puritains, dont l'ambition était de réformer l'Église d'Angleterre. Et enfin, une restauration des théâtres, qui avaient été fermés pendant l'interrègne puritain, parce que ces derniers n'étaient pas très fans de divertissement de manière générale. Donc à l'époque, théâtre, politique et religion sont intimement liés, et la question religieuse est extrêmement problématique. D'ailleurs, la période d'une vingtaine d'années que j'étudie est émaillée de nombreuses crises qui sont liées au puritanisme et au catholicisme. Et c'est pourquoi, moi, j'ai choisi d'étudier un corpus composé de comédies à sujet religieux. Donc des comédies qui présentent des personnages qui sont caractérisés par leur appartenance à un clergé ou à une communauté religieuse. Des comédies qui mettent en scène des lieux de culte, notamment des églises et des couvents. Et des comédies qui, de manière générale, se saisissent des enjeux religieux contemporains. Donc mon but, c'est d'étudier comment le fait religieux nourrit et structure ces comédies. Comme Thaïs a dit, comment le fait religieux, en fait, va venir informer l'écriture dramatique de l'époque. Et aussi comment ce fait religieux devient un élément comique, ou pas, dans certains cas, et comment ces comédies participent aux débats religieux qui ont lieu en Angleterre à l'époque. Mais une autre particularité des comédies sur lesquelles je travaille, c'est qu'elles sont toutes adaptées de ce que j'appelle des sources européennes. Donc ça peut être des sources françaises, espagnoles ou anglaises de la période élisabéthaine. Et mon but, c'est de voir comment ces sources étrangères, donc étrangères dans le sens géographique, temporel, culturel et confessionnel, donc comment ces sources sont appropriées par les dramaturges anglais, pour aborder des questions nationales qui, elles-mêmes, en fait, se conçoivent dans une perspective internationale. Par exemple, la peur du catholicisme qui anime une bonne partie des protestants anglais à l'époque est très clairement associée à une angoisse de l'influence et du pouvoir français. Sauf qu'évidemment, ce processus d'appropriation n'est pas à sens unique. C'est pas seulement les sources étrangères qui sont modifiées par les dramaturges anglais, mais la comédie anglaise elle-même qui en vient à être modifiée par les influences étrangères. Donc au sein de ces questions religieuses nationales, se joue un dialogue interculturel qui participe à la construction de relations européennes et d'un espace européen. Et c'est vers ces questions d'unité nationale, de tolérance et de construction européenne que se dirige actuellement mon travail. Voilà.
Oh, c'est génial.
Merci Alice. C'est passionnant.
Ouais, ça a l'air trop intéressant. On a bien posé des questions.
Moi, j'adore.
Mais tu comprends. Mais non, mais c'est tout aussi bien d'ailleurs quand on travaille sur un sujet à ce domaine d'études. Bah, on revient avec toi dans quelques minutes pour justement ces questions. En attendant, on va faire une petite pause musicale qui va sûrement vous évoquer quelques souvenirs nostalgiques du collège avec REM, Lose Your Religion.
Sad enough. I
Et non, ce n'était pas juste un rêve. On espère que vous n'avez pas perdu votre patience pendant que certains perdaient leur religion. On est donc toujours avec Alice Marion Ferrand, qui est restée avec nous, qu'on n'a pas perdu. on a énormément de questions pour elle, je crois.
Absolument.
En tout cas, j'en ai une, peut-être, pour commencer, si tu permets, Aliénor, sur le fait que tu travailles sur le fait religieux, la représentation du fait religieux, et peut-être du rituel religieux. Et je me demandais si on ne pouvait pas envisager aussi le théâtre lui-même, on va croire que c'est une obsession, mais le théâtre lui-même comme un fait religieux, ou en tout cas un rituel du moins.
Si, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est présent évidemment au XVIIe siècle, mais ça remonte en fait aux origines du théâtre, parce que le théâtre, ça faisait partie des rites dionysiaques au départ. Oui. Donc c'est ancré dans des rites religieux, et c'est quelque chose qui se retrouve tout au long de l'histoire du théâtre avec les mystères religieux, et au XVIIe siècle avec un parallèle très net entre l'architecture des théâtres et l'architecture des églises baroques. Et puis c'est quelque chose qu'on retrouve sous la plume des auteurs aussi, qui parle du parallèle entre les bancs de l'église et les bancs du théâtre.
Plus confortable au théâtre quand même.
Moi je préfère. Après chacun son type de divertissement.
On ne juge pas les kinks.
Et jusqu'à Jean Genet en fait, qui sera là avec toute cette question de la théâtralité.
Bien sûr, la théâtralité, c'est en fait pour moi, c'est la notion qui lie tout le temps théâtre et religion. Ouais. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille pas mal avec mon corpus.
Mais alors, justement, on parlait de cette question de la représentation du religieux. À un moment donné, dans ta présentation, tu parles, dans certains cas de ton corpus, d'une représentation comique du religieux. Alors, je me dis, 17e, comment c'était perçu ? Est-ce qu'il y a eu des conséquences, parfois fâcheuses ?
Oui. Il y avait de la censure à l'époque, évidemment. Il y a des pièces qui sont censurées, mais... Ce qui est assez étonnant avec mon corpus, c'est que donc, ce sont des comédies avec des représentations très satiriques de certains personnages religieux, de prêtres catholiques, de religieuses catholiques aussi, mais aussi de puritains dévots ou simplement de protestants anglicans. Donc ce qui est censé être la norme en fait en Angleterre à l'époque.
Bien sûr.
Sauf que ça passe, ça fonctionne, la satire n'est pas censurée. Et du coup, il y a plein de pistes à explorer par rapport à ça, mais il y a déjà l'idée qu'on peut se cacher derrière l'humour, en fait, pour dire des choses qui ne seraient pas passées de façon sérieuse. Et aussi que, en fait, la façon qu'ont les auteurs d'aborder ce sujet religieux est tellement ambivalente, ça part tellement dans des sens opposés et qui coexistent ensemble sur scène, qu'on ne peut pas les taxer d'être soit anti-catholique, soit anti-puritain, parce qu'ils attaquent tout le monde, en fait.
Et pourtant, ça tire à balles réelles.
Ah plus que ça.
Donc, ça fait des échos, je trouve, avec des thématiques très actuelles en soi.
Ah oui, bien sûr. La question religieuse, de nos jours, c'est hyper problématique aussi. Et on voit que les auteurs du XVIIe siècle trouvent des stratégies, en fait, pour se protéger du pouvoir royal et de la censure royale.
Complètement, ouais. Oui.
Donc pas de bad buzz pour Shakespeare.
C'est après Shakespeare, suis Guilhem.
Oui, le bad buzz. Oui, bien sûr. Mais toujours pas de bad buzz, en tout cas. Moi, j'ai une question vraiment une question de béotien. Tu parles de la notion de second XVIIe siècle. Alors, la grande question, c'est, ça veut dire qu'il y aurait peut-être un premier, un troisième XVIIe siècle, le multiverse du XVIIe siècle. Alors, je voudrais savoir exactement ce que tu entends par second XVIIe siècle.
L'appellation second XVIIe siècle, ça me permet de faire deux choses. Déjà, de souligner la rupture qu'il y a eu en 1660 avant ça, à partir des années 1640, avec les guerres civiles anglaises, puis l'interrègne puritain. Il y a vraiment une rupture dans ce siècle en Angleterre. Et aussi parce que ça me permet d'esquiver l'appellation comédie de la Restauration, qui est un peu floue, dans le sens où on sait quand ça commence, en 1660, mais on ne sait pas trop quand ça s'arrête.
Comme les travaux, finalement.
C'est ça. Moi, j'ai choisi...
surtout.
Moi, j'ai choisi de faire s'arrêter ça en 1688, avec une autre révolution. Mais il y a des personnes qui... mène la restauration jusqu'à 1700, voire 1714, qui est la fin du règne d'Anne. Donc, c'est pas du tout clair. Et second XVIIe siècle, ça permet de situer ça très clairement, c'est la deuxième moitié du XVIIe siècle.
Très bien. Ouais. Assez limpide.
Absolument. Merci beaucoup. C'était super.
Merci.
On va passer à Lola Bruyère. Donc, Lola, tu es en deuxième année de master. C'est notre outsider de l'émission. Donc, toi, tu travailles sur le théâtre et le spectacle vivant. Et plus particulièrement donc sur la mise en œuvre des théories féministes à travers le théâtre lesbien. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, s'il te plaît ?
Donc mon mémoire qui sera présenté à la soutenance en mai prochain, il s'articule autour du lesbianisme radical. En fait, il fait état de la stratégie dont usent deux auteuristes qui sont issues de ce mouvement, qui sont donc Monique Wittig et Michel Kos, qui parviennent à inventer une poétique théâtrale lesbienne dans le but de déconstruire les structures sémantiques de l'oppression patriarcale et donc ainsi de travailler une langue et une performance qui sont proprement féministes. C'est donc une recherche qui s'inscrit dans la suite de mes travaux de première année, qui portait sur les spectacles militants organisés par le MLF, qui avait créé en fait des petites formes qui ressemblent à de l'agite propre et qui concouraient du coup à libérer et à faire circuler la parole. Donc ma recherche, elle s'inscrit dans le contexte du post-féminisme, qui a apparu au début des années 80 à la suite de la seconde vague féministe. Et donc dans ce mouvement-là, il y a donc du coup des femmes qui se tiennent vraiment en marge radicalement, qui sont les lesbiennes radicales. En fait, elles font du lesbianisme un moyen de lutte contre le patriarcat. Tout à l'heure, on parlait du marxisme. En fait, c'est issu des pensées des féministes matérialistes qui sont beaucoup inspirées du coup des théories de Marx. Et en fait, elles sont... du coup, il y a des intellectuels, il y a des artistes aussi. Et c'est aussi des militantes. Et le lesbianisme radical, c'est un mouvement qui s'est manifesté à travers l'ensemble des pays qui ont connu une révolte féministe. Donc, c'est pas que français et surtout pas très français. En fait, au final, c'est très américain ou très anglais. Et en France, on a du coup des figures phares qui sont donc Monique Wittig, qui commence à être aujourd'hui un peu à irriguer les mondes universitaires, et encore que, c'est assez récent, depuis 2022, depuis qu'on a sorti Le Voyage sans fin, qui est une de ses pièces. Et elle théorise du coup dans La pensée straight l'idée selon laquelle l'hétérosexualité agirait comme un régime politique et comme un outil du patriarcat. Et c'est aussi du coup l'idée des féministes matérialistes. Et il y a une autre femme aussi qui incarne le lesbianisme radical français, qui est Michelle Cosse. Mais son travail, il est complètement dans l'ombre aujourd'hui en France. Il est totalement en fait inconnu. Il n'y a personne qui travaille dessus en France.
Ouais, c'est vrai.
Et elle nommera du coup, elle, l'androlecte, qui est une forme de langage masculin qui oblige les femmes à s'exprimer. Enfin, les femmes qui s'expriment à toujours être dans une forme d'imitation ou dans une forme de silence. Et donc, ces deux autrices qui ont également écrit des pièces de théâtre. Et en fait, la partie militante et poétique ne peut pas être séparée en fait, de ces pièces-là. Et donc, elles mettent en œuvre des théories féministes à travers le théâtre lesbien. C'est donc ça que j'étudie.
D'accord, ok.
Merci Lola.
Trop bien.
Oui, vraiment, encore passionnant.
Je vais peut-être commencer avec juste une petite question de définition. À un moment donné, tu parlais donc de certains pays qui ont vécu donc des révoltes féministes. Est-ce que tu peux nous préciser
En fait, quand on parle de féminisme, il y a à l'heure actuelle encore des débats, mais on utilise la notion de vague, en fait. Actuellement, on est d'accord pour dire qu'il y en a quatre. Mm-hmm. La première, c'est à la fin du 20e, à la fin du 19e, à la fin du... À la fin du 19e, oui, j'ai un problème avec les chiffres. Oui. À la fin du 19e, il y a en fait le début des révolutions qui est lié aux luttes ouvrières et à toutes les luttes industrielles qu'il y a autour. Les secondes guerres mondiales dans le monde freinent ces mouvements-là de lutte féministe et elles reviennent un peu globalement partout dans les pays qui ont connu des révolutions industrielles à partir des années 60. On est ensuite en 68 en France, il y a mai 68, et en fait la seconde vague commence avec des femmes qui ont réalisé que la prise de parole dans les débats, en fait on n'interrogeait pas les femmes, en fait, elles n'avaient pas la place dans les débats, et du coup elles forment en 70 le MLF. Donc en fait ce que j'entends par révolte féministe, c'est des mouvements de révolution, de féminisme, où c'est des manifestations dans la rue, c'est des prises de parole politiques, c'est des journaux, enfin comme n'importe quelle révolte, mais de façon féministe.
Oui, de la visibilité en fait.
C'est ça.
Donc la notion de vague qui n'est pas une notion vague, finalement. Alors, j'ai évidemment une multitude de questions, mais peut-être la première, c'est sur la notion de théâtre lesbien et l'idée de la manière dont le théâtre lesbien va s'incarner. Est-ce que le théâtre lesbien, c'est un théâtre de dramaturge lesbienne, de metteuse en scène lesbienne? Est-ce que tu prends en compte l'idée que de l'identité lesbienne des actrices potentiellement?
En fait, sur cette question-là du théâtre lesbien, il n'y a personne qui a travaillé dessus aujourd'hui. En fait, il y a justement l'autrice Michelle Cosse qui a écrit un essai qui ressemble plus à un manifeste pour le théâtre lesbien, dans lequel en fait, elle théorise tout ça et elle a une écriture qui est assez, assez sombre et assez lourde à oui. détailler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore beaucoup de déchiffrage de textes à faire.
Bien sûr.
Mais en fait, l'idée d'un théâtre lesbien, c'est un théâtre qui serait une stratégie en lui-même. C'est pour ça qu'il est considéré comme du militantisme. Enfin, je le considère comme du militantisme. Parce qu'en fait, il pose le fait de présenter sur scène des femmes qui ne sont pas des femmes. C'est ce que dit Monique Wittig par rapport aux lesbiennes. C'est que comme les lesbiennes ne s'inscrivent pas dans des dynamiques patriarcales parce qu'elles ne dépendent pas de l'amour et de l'affection des hommes et des choses comme ça, elles sont en fait, elles ne sont pas des femmes au sens où une femme est une mère, est une épouse, etc. Les lesbiennes ne s'inscrivent pas dedans. Et donc l'idée d'un théâtre lesbien, c'est que c'est la parole de ces femmes-là qui est mise en avant pour pouvoir déconstruire les prismes de genre.
D'accord.
Alors justement, tu parlais donc de cette idée de militantisme à travers la création. Et effectivement, en fait, on s'est rencontrés avec Lola pendant qu'elle faisait une performance en soi, hein, qui était organisée lors du contexte de la journée d'études du RIRA, le WIP, Work in Progress. Donc on s'est rencontrés à cette occasion. Et alors ce que tu avais fait, donc, c'est que tu avais pris des extraits de l'œuvre de Michel Kos et que tu avais plié, en fait, froissé ces extraits. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu justement sur cette question
En fait, les œuvres de Michel Kos, elles ont été publiées en 89, si jamais je ne dis pas de bêtises, au Québec. Et depuis, elles n'ont pas été rééditées en France, en fait. Donc, c'est des textes qu'il faut aller chercher au Québec ou alors au fin fond des greniers, dans des cartons qu'on peut prendre la poussière.
Les greniers québécois.
C'est ça. Et donc moi, pour en fait l'exercice qui était donc de présenter son projet de recherche en 15 minutes, ça a été donc, du coup, de présenter en un minimum de temps tout le travail de Michel Kos. Et donc j'ai cherché en fait à rendre compte de cette partie un peu intime du texte et donc de donner à voir en même temps le texte en tant que pièce, enfin en tant que morceau. Et donc en fait de le froisser comme un papier qui aurait beaucoup voyagé, qui aurait beaucoup été tenu entre les mains, qui aurait été vraiment partagé et qui aurait circulé, quoi.
Oui, l'idée d'une mémoire du papier, en fait.
C'est ça.
D'accord. Oh, c'est joli. Poétique.
Bon, en tout cas, tout ça nous a donné de la matière à penser, de la restauration pour notre esprit, finalement.
Oh là là.
Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est la fin de cette émission.
Absolument.
Voilà. On espère qu'elle vous a plu, ému, fait réfléchir, réveillé en tout cas, autant qu'à nous, ça c'est sûr. Merci à toutes les trois pour votre présence aujourd'hui et pour vos mots. On vous donne rendez-vous, chères auditrices, chers auditeurs, jeudi 25 avril, c'est-à-dire dans une semaine, pour la prochaine émission de Docteur Radio.
On remercie évidemment nos participantes, on remercie la radio pour nous permettre toujours chaque semaine de faire cette émission. On remercie Tristan Poitevin pour la réalisation de ce jingle qui porte les voix de Lévi-Strauss et de Françoise Héritier. On remercie Alice Bousse pour la réalisation de la communication et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci à Marx.
Il faut avoir envie d'interroger le monde.
Il y a une chose, une seule à préconiser, qui est la recherche sur le terrain.
La curiosité, toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les choses.